Vous écoutez IDFM, il est 13h.
Bonjour à tous, amis auditeurs, et merci de rester fidèles au journal de la santé et du bien-être naturel sur Radio IDFM. Et oui, c'est la rentrée. C'est la rentrée pour tout le monde et aussi pour le journal de la santé. Et j'espère que tout au long de l'année, nous allons vous apprendre des choses, nous allons vous divertir et puis essayer à notre modeste place de vous maintenir en bonne santé. Alors, qui est l'équipe? Eh bien, l'équipe, c'est toujours Francky à la technique. Merci, Francky. Et puis, docteur Jacques Labesca, eh bien, au micro, mais nous nous connaissons. Alors, je vous ai dit, c'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est le moment des bonnes résolutions. On a un peu exagéré cet été. Pourquoi ne pas essayer de perdre un petit peu cette surcharge que l'on a accumulée? C'est une première idée. Nous allons vous y aider peut-être avec le jeûne intermittent. Pourquoi ne pas aussi arrêter de fumer, ou du moins diminuer sa consommation de tabac? On sait que c'est un facteur de risque favorisant les maladies cardiovasculaires, et donc pourquoi ne pas arrêter? Puis, c'est la rentrée certes, mais est-ce qu'on peut ne pas garder quelque temps encore ces belles images de vacances? Ces belles images de vacances, et j'ai rencontré sur une plage des Landes un professeur tahitien de surf qui nous dit... le surf, c'est pas réservé aux jeunes. On peut débuter même après 40 ans et ça fait beaucoup de bien au corps d'abord. Et puis, peut-être si on fait attention aussi, ça peut faire du bien aussi à l'océan. Alors, un moyen de d'aider les océans et puis de s'aider soi-même. Alors après, j'ai lu un livre aussi qui était très intéressant où on nous parle d'un sens que l'on ne développe pas assez, qui est celui de l'odorat. Je vous laisse découvrir. Ce livre est très intéressant, passionnant même, il se lit comme un roman, et il va nous indiquer comment fonctionne l'odorat, comment on peut le cultiver, comment on doit surtout le développer. Et enfin, je vous ai dit, on va garder ce parfum de vacances. Ce parfum de vacances, c'est aussi rencontrer des cétacés. Alors, il se trouve que à l'île Sainte-Hélène, il n'y avait pas que Napoléon, il y a aussi beaucoup de requins-baleines, mais c'est pas de cela dont on va vous parler. On va vous parler en Méditerranée, de rencontrer les dauphins dans leur milieu naturel, rencontrer aussi les cachalots, pourquoi pas les tortues de mer, mais tout ça dans un esprit de respect des cétacés, de respect des dauphins, et pas un peu en exhibitionnisme, comme on peut le voir dans les définariums. Ah oui, un journal de la santé qui est varié, qui est un journal de rentrée, donc, et pour rentrer, eh bien, nous allons vous faire la surprise, mais nous avons rencontré aussi Oxence et Noémie. Oxence et Noémie nous ont fait une petite surprise pour la rentrée, pour tous leurs copains qui reprennent l'école comme eux. Merci à tous de nous écouter, ne quittez pas l'antenne, et à tout de suite. Alors toujours sur le journal de la santé et du bien-être naturel, sur Radio IDFM, nous vous l'avons dit, nous avons rencontré une cantilienne en vacances, Noémie. Noémie était en vacances dans les Landes, elle a pratiqué le surf d'ailleurs, et elle a dit pour tous mes copains et copines de rentrer, eh bien je vais leur narrer la fable du corbeau et du renard. Alors on écoute Noémie.
Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine.
Merci Noémie, et bonne reprise à tous. En vacances, il y avait également Auxence. Auxence nous raconte une autre fable qui a été mise en ligne par la Ligue contre le cancer. Et oui, si le moment de la rentrée était le temps idéal pour prendre de bonnes résolutions et surtout les tenir, parmi celles-ci, pourquoi ne pas arrêter de fumer? Alors, et si la fable d'Auxence nous aidait? Pourquoi pas, après tout? Et on t'écoute, Auxence.
La cigale, ayant fumé tout l'été, se trouva fort dépourvue quand le moment fut venu. Plus un seul petit morceau de clope ou de mégot. Elle alla crier nicotine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques tiges pour subsister. La fourmi n'est pas fumeuse, ce n'est point là un défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Je fumais, ne vous déplaise, vous fumiez, j'en suis fort aise, et bien toussez maintenant.
Merci Auxence. L'été est terminé et le journal de la santé et du bien-être sur Radio IDFM reprend. Et l'été est terminé, mais on a quelquefois un petit peu exagéré, on s'est un petit peu lâché, mais en cette période un petit peu trouble, comment ne pas considérer qu'on a besoin de se lâcher de temps en temps? Le seul problème, c'est que se lâcher, ça veut dire quelquefois prendre des kilos en plus. Et oui, le maillot de bain a du mal à rester en place, mais ça, c'est pas trop grave, hein. Maintenant, on va mettre une tenue beaucoup plus stricte. Mais quand même, on se sent pas bien, on a un petit peu exagéré, notamment au niveau de l'alcool. Et si on faisait, non pas un jeûne, qui est un peu compliqué et quelquefois un petit peu difficile à tenir en période d'activité professionnelle, mais si on faisait un jeûne intermittent, on vous laisse découvrir ce qu'est le jeûne intermittent.
Bonjour, Virginie Salicetti-Vartagnan.
Bonjour.
Alors, si nous avons invité aujourd'hui notre journal de la santé, c'est parce que vous avez écrit un livre, que l'on va montrer d'ailleurs, qui s'appelle « Le jeûne intermittent ». Alors déjà tout un programme. Pourquoi, d'abord, qu'est-ce qui vous a entraîné à faire un livre sur les régimes? Parce qu'il y en a déjà beaucoup. Je crois que déjà vous aviez écrit un premier livre sur le régime cétogène, le régime où on mange plus de graisse que de sucre et qui aide à bien vieillir. Enfin, j'ai un peu schématisé. Et là, vous nous mettez en livre donc un jeûne intermittent. Alors c'est quoi le jeûne intermittent?
Alors, première question d'abord, pourquoi j'ai écrit sur le jeûne intermittent? Parce que c'est un régime, moi je ne l'appelle pas ça un régime, j'appellerais plutôt ça un mode alimentaire. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques mois et je me suis décidée à le tester pour perdre 2-3 kilos que j'ai accumulés pendant les différents confinements. Et le jeûne intermittent, donc, est plus une méthode alimentaire qu'un régime. Pourquoi? Parce que il y a peu de restrictions alimentaires, c'est plutôt des restrictions caloriques, il n'y a pas d'aliments interdits, et le jeûne intermittent consiste à alterner une phase alimentaire avec une phase de jeûne. Il existe plusieurs jeûnes.
Oui, parce que le jeûne absolu, c'est un peu compliqué. Le jeûne pendant plusieurs jours, c'est un peu compliqué.
Absolument, le jeûne absolu, c'est très restrictif. Alors que là, avec un jeûne intermittent, en alternant des phases alimentaires avec des phases de jeûne, c'est beaucoup plus facile. Et sachant qu'il y a plusieurs méthodes, il y a quand même celle que moi j'ai testée, qui est la plus simple à appliquer, quel que soit votre mode de vie, j'ai envie de dire, que vous soyez sportif, que vous soyez sédentaire, que vous ayez une vie sociale importante ou pas, la méthode 16-8 est la plus facile à adopter, sachant que vous pratiquez en fait une phase de jeûne de 16 heures et vous pratiquez une phase alimentaire de 8 heures.
En pratique, je fais quoi alors? En pratique, on y va.
En pratique, avec cette méthode-là, vous jeûnez pendant 16 heures. C'est-à-dire que si vous souhaitez sauter le petit déjeuner, parce qu'il va falloir faire un choix, ou vous éliminez le petit déjeuner, ou vous éliminez le dîner. Si vous souhaitez éliminer le petit déjeuner, vous faites votre dernier repas à 20h et le lendemain, vous faites le repas suivant à midi. Alors, vous allez me dire, c'est énorme sans manger. Bah, pas tant que ça, parce que quand même, sur cette phase de 16 heures, il faut penser que vous passez une bonne partie à dormir. Voilà. Ensuite, si vous préférez sauter le dîner, vous faites votre dernier repas à 15 heures et vous mangez le lendemain à 7 heures. Ce qui est impératif, c'est de garder une phase de 16 heures non alimentaire. Voilà.
Donc, vous êtes en train de casser les codes alors qu'ils nous disaient petit déjeuner droit, déjeuner de prince et dîner de moine. Alors, vous êtes complètement à l'envers, là.
Tout à fait. Heureusement, on va dire que la nutrition évolue, comme tout le reste. Et tous ces vieux codes, il faut les mettre de côté parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, ce qu'il faut, c'est mettre son organisme au repos pendant le plus de temps possible. Alors après, il y a d'autres méthodes de jeûne, hein, mais qui sont un petit peu plus restrictives, donc on en parlera peut-être moins. Il y en a une qui est aussi pas mal utilisée, c'est la méthode 5-2, où là, ça consiste à faire 2 jours de diète par semaine. Alors là, les jours de diète, ils sont vraiment hypocaloriques, hein. Ce sont des jours de diète limités à 500 kilocalories maximum. Voilà. Donc, vous voyez, il y a les codes, on les oublie aujourd'hui avec le jeûne, parce qu'on se rend compte que cette méthode alimentaire a des bénéfices à la fois sur le poids, mais aussi sur la santé.
Voilà. Alors, donc, si je reprends votre méthode, enfin la méthode que vous décrivez, le soir, je mange normalement à peu près. Qu'est-ce que je mange le soir ?
Vous pouvez manger tout à fait normalement. Il n'y a pas d'interdit. Ensuite, l'idéal, c'est quand même de faire attention au nombre de calories. C'est toujours pareil. Si vous mangez en grande quantité et que vous ingurgitez énormément de calories, il n'y aura pas de résultat, du moins sur le poids. Que moi, je préconise, et je ne suis pas la seule, c'est vraiment de manger un peu de tout, mais en petite quantité, sans trop exagérer. Si ça vous fait plaisir de finir sur une note sucrée, vous pouvez, mais en petite quantité. Attention là, je parle bien de la méthode 16-8, hein, où on ne réduit pas les calories. C'est pour ça que c'est la plus facile, j'en reviens toujours à la même chose, c'est vraiment la plus facile à adopter et on obtient vraiment des résultats aussi bien sur la perte de poids que sur le santé et le bien-être.
Alors, donc, je reste la nuit sans manger, donc je n'absorbe rien. Et le matin, au petit déjeuner, j'ai droit à un café ou pas à mon thé ou...
Si vous sautez le petit déjeuner, vous avez le droit de boire, mais absolument pas de manger. C'est-à-dire, il faut vraiment, pendant ces 16 heures de jeûne, ne pas manger. Bien évidemment, vous pouvez boire du café, du thé, des tisanes, de l'eau. Surtout, c'est très important d'ailleurs, hein, de bien s'hydrater, mais vraiment aucune prise alimentaire pendant 16 heures.
D'accord. Et à midi, je remange normalement.
Et à midi, vous remangez normalement.
Mais je ne vais pas avoir faim, je ne vais pas avoir tendance à vouloir manger trop à midi.
Franchement, j'en reviens à moi quand je l'ai fait pendant plusieurs semaines. Moi, je sautais le petit déjeuner. Je sautais le dîner parce que le petit déjeuner, pour moi, c'est très important. Au début, on va dire les 48 heures, on va sentir un petit peu la faim, on va la ressentir. Mais très vite, ça s'estompe. Ça passe très, 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 très vite, en fait. Parce qu'on se rend compte que ça régule l'appétit. Le jeûne régule l'appétit. Donc, vraiment, ça passe très, très vite. On ne peut pas dire... Franchement, avec le jeûne intermittent, il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a vraiment pas d'inconvénient majeur. Il y a des petits désagréments au tout début, mais ça passe très, très vite.
Et alors, justement, enfin, vous nous dites, est-ce qu'on peut faire un goûter ? Est-ce que vous pouvez nous donner une journée type ? Allez, une journée 16-8, comme vous dites, type.
Une journée 16-8, vous commencez par votre petit déjeuner à 7h le matin, vous prenez votre café, vous mangez, alors, raisonnablement, on est toujours d'accord, vous mangez deux tranches de pain aux céréales, ce qui vous fait plaisir, du beurre, un peu de confiture si ça vous plaît. Là-dessus, c'est vraiment ouvert. Il n'y a pas de... Alors, dans mon livre, évidemment, je mets quelques recettes, conseils pour garder une alimentation saine, mais il n'y a vraiment pas d'obligation Il n'y a pas de restriction alimentaire. C'est juste à faire attention au niveau des quantités, ne pas trop manger. Donc, vous prenez votre petit déjeuner. À midi, vous déjeunez normalement. Vous pouvez même aller au restaurant. Vous mangez normalement. Et ensuite, sur le coup de 15 heures, Oui, 15h. Tout dépend à quelle heure vous décalez votre petit déjeuner le lendemain. Si c'est 15h, vous déjeunez le lendemain à 7h. Si c'est 15h30, vous déjeunez le lendemain à 7h30. Il faut respecter les phases de 16 heures de jeûne. Et donc, à 15h, soit vous faites un petit repas salé. Alors, évidemment, là, on va être plus dans une collation, on va dire. Petite collation salée ou une petite collation sucrée, tout en restant raisonnable. Ce qui fait que le soir, vous verrez que sur le coup de 8h, 8h30, vous n'aurez pas faim. Peut-être que la faim peut un peu se faire ressentir sur le coup de 22h, entre 22h et 23h. Mais là, il suffit de boire de l'eau ou une tisane et ça passe automatiquement et vous vous couchez vraiment très, très bien, sans souci. Et en plus, l'avantage, c'est que vous dormez mieux parce que vous êtes léger. Voilà, c'est l'idéal pour rétablir un bon sommeil.
Bon, et alors,
le lendemain, vous commencez à déjeuner à 7 heures.
Vous me garantissez avec cette application, ce mode de vie, que je vais perdre régulièrement et sans douleur.
Sans douleur, ça, je vous certifie qu'il n'y aura aucune douleur, vous perdrez. On perd quand même bien, j'ai envie de dire. Hein, en fait, la quantité de poids que vous allez perdre dépend principalement du type de jeûne que vous allez choisir. Donc là, on est parti sur le 16-8, mais ça dépend aussi de votre poids de départ. Quand il s'agit de 2 ou 3 kilos à perdre, ça va très très vite. S'il s'agit de 15 à 20 kilos, bien évidemment, il faudra le faire sur le long terme. Ça dépend aussi, la perte de poids va dépendre de la quantité, de la qualité des aliments que vous prenez, de votre état de santé général aussi, bien sûr, et puis du nombre de jours que vous pratiquez ce jeûne. Mais franchement, en moyenne, on perd à peu près 2,5% du poids initial, à peu près, et en deux semaines. Et on perd aussi 4% de tour de taille avec cette méthode-là. Ça, c'est vraiment ce qui a été remarqué chez tous les participants de cette formule de jeûne intermittent.
Et vous nous dites donc on peut le maintenir, ça peut devenir un mode de vie, quoi, en fait. Ça ne sera pas restrictif, il n'y aura pas de déficit alimentaire, enfin de déficit protéique et autres.
Comme vous mangez ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis. Alors après, on évite effectivement il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le pratiquer. Enfin, c'est fortement déconseillé. Principalement les personnes qui ont des problèmes de comportement alimentaire, qui ont des troubles alimentaires. Les femmes enceintes, c'est déconseillé, et celles qui allaitent aussi. Celles qui sont en sous-poids, ça arrive aussi. Voilà, il y a les enfants, les adolescents aussi, ça n'est pas recommandé. Mais chez les adultes en bonne santé et qui ont quelques kilos à perdre, c'est très facile et très bien.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Virginie Salicetti-Vartagnan. On prend rendez-vous dans 2 mois et si jamais ça n'a pas marché, attention. Hein. Alors, en tout cas, pour en savoir plus, nous conseillons à nos auditeurs de lire votre livre qui s'appelle « Le jeûne intermittent, une nouvelle approche de la minceur » et qui a paru aux éditions Alpen. Merci beaucoup, Virginie.
Merci à vous, Jacques. Merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Le journal de la santé sur Radio IDFM aurait bien aimé rencontrer, à travers moi, notre coach sur les plages tahitiennes. Ben oui, mais il est plus à Tahiti, il était sur la côte sud-ouest. Et il nous indique, eh bien, comment peut-on faire pour pratiquer du surf après 40 ans? Est-ce que c'est bon, après tout, de faire du surf après 40 ans? Est-ce bon pour soi? Et surtout, est-ce bon pour l'océan? Ben, si c'était bon pour tout le monde, après tout, pourquoi pas essayer? Et c'est une bonne idée pour les vacances prochaines. Ben oui, pourquoi pas. Bonjour, ben nous sommes à Tahiti, à la plage de Tahapuna, et nous avons rencontré Taitoa Marama, qui est prof de surf. Et non, allez, je plaisante, le budget de la radio ne nous permet pas d'être à Tahiti. En fait, nous avons rencontré, mais d'une manière aussi sympathique, sur les plages landaises, et lui ont posé la question, parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui font du surf, parce que les plages landaises, bien sûr, c'est le lieu, mais si on a plus de 40 ans, comme c'est notre cas de beaucoup d'auditeurs, est-ce qu'on peut se mettre au surf, Taitoa, à ses 40 ans?
Alors, bonjour, et Je m'appelle Taitoa, je pratique le surf depuis mon plus jeune âge. Et pour répondre à votre question, il n'y a pas d'âge pour faire du surf, pour débuter le surf. Et je pense même que tout particulièrement maintenant dans ce contexte, il faut maintenir une activité physique. Et le surf, l'été dans les Landes, paraît une activité... incontournable. Alors quand on a plus de 40 ans, à la différence des jeunes, on peut être moins tonique, moins agile, moins souple, mais le surf reste accessible par certaines techniques à tout âge et à tout âge.
C'est pas dangereux le surf?
Ah, le surf déjà ça se pratique dans l'océan, donc l'océan est un milieu dangereux. Alors, le but du surf, c'est de glisser, de composer avec les vagues. Donc, au contraire, on ne lutte pas contre l'océan, on essaie de l'apprivoiser. Et j'aime bien utiliser la métaphore de danser avec les vagues, plutôt que de lutter contre cet élément contre lequel on ne gagnera jamais. Donc oui, ça peut être dangereux, mais bien encadré et avec de bons réflexes, c'est un sport accessible à tout âge.
Prendre un bon coach. Et puis, mais alors, il n'y a pas de danger particulier, il n'y a pas de contre-indication particulière.
Alors, non, il n'y a pas de contre-indication particulière, à part pour les personnes qui seraient allergiques à l'eau ou au froid. Ça peut essayer d'y arriver. Non, il n'y a vraiment pas de contre-indication particulière.
Ni cardiovasculaire, ni pulmonaire.
Ni cardiovasculaire, il faut juste informer son professeur et on adapte l'effort et l'intensité en fonction de l'élève.
Et alors on dit que c'est un sport de glisse, enfin c'est un sport de glisse. Et si on fait du ski pendant l'hiver, est-ce qu'on a un avantage, est-ce que c'est...
Alors bien sûr c'est un sport de glisse, comme le ski, comme le skate, la planche à roulettes, tous ces sports où on est en fait parallèle dans le sens de la glisse. Alors par rapport au ski, donc ce qui s'approcherait le plus, ça serait le snowboard, le surf de neige. Et par rapport à celui-là qui lui ressemblerait pas mal, on remarque tout de suite qu'au niveau des appuis et de la façon de tourner, il y a une très grosse différence. Car le surf, ça se pratique sur l'eau et l'eau est en continuel mouvement. Quand le lot ne s'arrête pas de bouger, donc les vagues, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, entre guillemets. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'une montagne qui ne bouge pas.
Et alors, on peut surfer avec son enfant, avec son enfant ou un petit enfant?
En tandem, vous voulez dire?
Non, pas en tandem, mais en même temps.
Partager. Alors, le surf, personnellement, moi, je le pratique avec tous les membres de ma famille, que ce soit parents, frères ou petits cousins. Donc voilà, à tous les âges, c'est quelque chose qui réunit un peu, qui peut réunir une famille autour d'un bon moment et d'une activité physique.
On peut trouver une vague à son niveau.
Ah, on peut trouver des vagues à tous les niveaux et on peut trouver une vague qui convient à tout le monde en adaptant sa planche de surf au style de la vague et à ses envies.
Et puis fonction de la marée aussi peut-être.
Et puis oui, bien sûr, ici dans les Landes, en France, dans l'hémisphère nord en tout cas, on a vraiment cet impact de la marée qui ne permet pas de surfer tout le temps. Qui chez moi ne nous embête pas car on a que 10 cm de marnage, de différence entre la marée basse et la marée haute.
Et puis la planche est peut-être un bon moyen de se baigner sans risque.
Et oui, on peut se baigner avec une planche. Après, le fait d'avoir une planche ne veut pas dire qu'on peut aller au large sans souci de revenir. Donc il vaut mieux commencer, débuter au bord si on ne maîtrise pas. Mais ça reste, oui, ça reste une activité. Je n'aime pas dire que le surf est facile, on ne peut pas dire que c'est facile, mais c'est un sport qui reste accessible.
Et puis les surfeurs, c'est une certaine mentalité, c'est une certaine ambiance.
Et oui, bien sûr, le surf, c'est un sport qui se pratique dans l'océan, donc il y a un respect de cet élément, quand on vient sur la plage, qu'on profite des vagues et tout, moi, j'essaie d'inculquer à mes élèves qu'on profite de tout ça et que c'est gratuit, entre guillemets, que c'est la nature qui nous le donne. Et justement, le petit geste à faire, ça serait sur le retour de ramasser un petit déchet. Parce que si tout le monde ramassait un petit déchet, on aurait beaucoup moins sur la plage et ça coûte rien.
Ça, c'est la Surf Rider.
Et oui, bien sûr, c'est une mentalité, c'est le respect un peu des animaux qu'il y a dans l'eau, de la nature qui nous entoure, parce qu'on compose avec elle, donc il faut la respecter.
On commence à voir des réceptacles pour les gens qui ramassent sur les plages.
Bien sûr, il y a de plus en plus d'événements, que ce soit par des assos, essentiellement du bénévolat, mais il y a des événements qui se mettent en place et qui justement éveillent un peu la conscience des gens par rapport à ça et pas juste aller à la plage, profiter du soleil et en fermant les yeux lors de la remontée quand on voit tous ces déchets sur la plage.
Et oui. Puis il arrive quelquefois que les surfeurs sauvent des personnes aussi qui sont en train de se noyer.
Et bien sûr, un surfeur, du coup, vu qu'il développe des qualités aquatiques, on peut dire, il sera à même de porter secours à quelqu'un qui est en difficulté.
D'ailleurs, les maîtres nageurs sont équipés de planches de surf.
Exactement, les maîtres nageurs ont des planches spécifiques au sauvetage, mais qui permettent de prendre des vagues, donc de glisser dans les vagues, et ça s'appelle faire du surf.
Et alors, si on veut rencontrer Taï Toa, on le rencontre où alors?
Alors, moi je suis encore là quelques mois, et ensuite je rentre à Tahiti là pour la fin de l'année, avant l'hiver. Et je serai chez moi sur la côte ouest.
Et alors, vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous n'avez pas de moyen de vous contacter directement?
Alors, je n'ai pas de chaîne YouTube, mais j'ai un compte sur les réseaux Facebook ou Instagram au nom de Taï Toa Marama. Donc,
Et ben voilà, et puis le mieux c'est de venir vous voir sur place.
Hein. Et le mieux c'est quand même de venir nous voir en vrai.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Maruru.
Ici le journal de la santé et du bien-être naturel sur Radio IDFM vous aidait à donner du sens à votre vie. Du sens. Oui, au sens évidemment psychologique, mais aussi au niveau physique. Et parmi les sens que nous allons vous aider à développer, il y a celui de l'odorat. On connaît le rôle des parfums, depuis Cléopâtre, dont on a pu reconstituer d'ailleurs le parfum. Et puis les vins, bien sûr, et tout ce qui a une odeur peut jouer un rôle important. Et malheureusement, l'odorat n'est pas assez développé. Du moins, on le cultive pas assez, et donc on le développe pas assez. Et si on développait ce sens, on se rendrait compte, finalement, qu'on trouverait une forme d'équilibre au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Alors ce livre est d'ailleurs écrit par un œnologue et nous a permis de découvrir que développer son odorat, c'est développer tout un mode de vie et développer toute une qualité de vie qui peut retentir au plan affectif, au plan cognitif, au plan général. Merci, écoutez bien, vous allez apprendre plein de choses.
Bonjour Clémence Lutti-Molinier.
Bonjour Monsieur Labetka.
Alors, pourquoi nous avons invité aujourd'hui? Parce que vous êtes une scientifique, et une scientifique qui a déjà eu un long parcours scientifique, puisque même vous avez parcouru, j'allais dire, l'EVA, le monde de l'œnologie, et en ce moment vous vous occupez spécialement des odeurs. Alors, pourquoi les odeurs? Parce que vous nous dites d'ailleurs d'emblée dans votre livre, qui est un très bon livre et que l'on recommande vraiment, qui s'appelle donc « L'extraordinaire pouvoir de l'odorat » et qui a paru aux éditions de Buck. Vous dites, on parle beaucoup du goût, d'ailleurs Maria Savarin a été un des encyclopédies du goût, mais on ne parle pas beaucoup de l'odorat, alors que l'odorat est beaucoup plus important que le goût.
Alors, on a vraiment tendance à confondre les deux. En fait, le goût, ça va vraiment être tout ce qui est sucré, salé, acide et amer, et umami, qui va être perçu en fait par la langue et par les papilles gustatives. Et l'odorat, en fait, va être à la fois ce qu'on va percevoir par le nez, donc ça, on a l'habitude de parler d'odeur, mais un peu plus perturbant, en mettant des aliments dans notre bouche, on a aussi les odeurs qui sont captées toujours par l'organe olfactif, par la rétro-olfaction, en fait, donc qui remonte dans les fosses nasales. Donc, c'est vrai que quand on consomme un aliment, tout ce qui va être fraises, citrons, etc., ce sont aussi des odeurs.
Vous dites donc qu'on devrait commencer par le sentir avant de le goûter.
Oui, oui, oui. Les informations olfactives sont assez intéressantes pour savoir de quoi il s'agit, quelle est la concentration. Effectivement. Alors,
en lisant votre livre, qui est à plusieurs niveaux de lecture, hein, parce qu'il est très scientifique en même temps, on apprend par exemple qu'il n'y a que 5 cm carrés pratiquement d'organes d'olfaction.
Oui, alors en fait, c'est vrai que ça paraît petit, mais on a vraiment une surface qui est démultipliée de par le nombre de récepteurs et des connexions qui se créent en fait entre les odeurs et les récepteurs aux odeurs. Qui multiplie les biais d'information. Donc, on a vraiment des interactions entre différentes odeurs et c'est notre cerveau qui nous permet de décoder et d'analyser tout ça.
Alors, vous nous dites, donc, c'est au niveau du nez que l'on sent, bien sûr, et ensuite, ça se transmet au niveau cérébral, dans une zone d'ailleurs, la zone de l'olfaction, qui est très voisine de la zone des émotions. Et vous établissez presque des ponts entre les deux, d'ailleurs.
Oui, 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 c'est vrai qu'en fait, le bulbe olfactif, donc c'est vraiment l'organe récepteur des odeurs, il va être extrêmement proche de l'amygdale. Et l'amygdale, c'est la partie qui est vraiment à l'origine de nos réactions, on va dire, plutôt spontanées, émotives, qui peuvent être enregistrées dès le plus jeune âge et persister jusqu'à la fin de nos jours, en fait. C'est la raison pour laquelle les odeurs, parfois, sans trop savoir de quelle odeur il s'agit, on peut recevoir beaucoup d'émotions tout à coup juste en ouvrant un flacon de parfum ou en arrivant quelque part et on sent l'odeur qui va nous rappeler quelque chose et qui va vraiment réveiller une émotion au fond de nous. Ça, c'est vraiment dû au fait de la proximité entre l'organe récepteur des odeurs et l'amygdale qui, elle, est responsable des émotions.
Mais il y a une double interaction parce que vous nous dites… Si on n'est pas très bien, vous citez vous-même votre cas d'ailleurs d'un test sur le vin que vous aviez fait à un moment où vous n'étiez pas très très bien, vous n'étiez pas en très bon accord, et c'est à ce moment-là ce test sur le vin a été très négatif, alors que le même test que vous avez fait 2 ou 3 ans plus tard, dans de meilleures conditions, s'est révélé bien meilleur.
Exactement, c'est vrai qu'en fait c'est un mécanisme qui marche dans les deux sens. Donc c'est vrai qu'une odeur peut susciter des émotions. Et à l'inverse, en fonction des émotions qu'on a le jour J, on va percevoir une odeur plus ou moins agréable, plus ou moins intense, et la reconnaître ou moins la reconnaître aussi en fonction de tout ça. Donc les émotions, oui, la météo, la pression atmosphérique, beaucoup de paramètres. Pour ce qui est des émotions, on le voit beaucoup malheureusement chez les personnes qui auraient des désordres psychologiques momentanés. Quand ils perdre un petit peu cette compétence en détection d'odeur, ça peut être un premier signe de désordre psychologique chez quelqu'un.
Alors, il y a une chose qui m'a surpris dans votre livre, c'est que vous dites qu'il y a 1 000 milliards d'odeurs.
Oui, en fait, ce sont vraiment les recherches d'Axel et Buck en fait, qui nous ont permis de voir que ce système clé-serrure, en fait, dû à une odeur active, un récepteur, ça démultiplie les odeurs qui sont accessibles à nous. Donc, en fait, même si on part de connaissances plutôt étroites au début de notre vie, on va pouvoir tisser ces relations et décoder un nombre d'odeurs assez impressionnant.
Alors, vous nous dites aussi, il y a finalement très peu de personnes qui ne sentent pas vraiment. Vous nous dites, on dit qu'il y a 10-12%, moi je dis plutôt qu'il y a 2% de personnes qui ont vraiment des troubles de l'odorat. Et vous nous dites, mais ça peut venir, ça vient de quoi en fait quand on a un trouble de l'odorat?
Alors il y a plusieurs raisons déjà, vous avez raison, donc une absence totale d'odorat c'est beaucoup plus faible que 10, hein, c'est plutôt 2%. On parle de 10-12% pour ce qu'on appelle des hyposmies. Donc, des perceptions d'odeur diminuées par rapport à la moyenne. En termes de causes, il y en a vraiment plusieurs. On pourrait, la cause la plus handicapante, on va dire, est le syndrome olfacto-génital, qui là, en fait, on n'a pas d'odorat, dès la naissance, qui s'appelle syndrome de Kalman d'ailleurs. Et ensuite, on a d'autres troubles qui peuvent arriver au cours de la vie, notamment à cause d'un choc psychologique ou un choc physique. Si on a un accident et qu'on a les bulbes olfactives qui vont être atteints, par exemple, on ne va plus percevoir les odeurs. On peut avoir aussi des infections virales et malheureusement, on en paie les frais aujourd'hui avec la Covid-19. Ou tout simplement une inflammation qui fait qu'en fait, au niveau de la cavité nasale, on est engorgé et on ne peut plus avoir l'odeur qui remonte jusqu'au cerveau.
Alors, il y a deux passages que j'ai beaucoup aimés dans votre livre. Il y en a beaucoup, mais parmi les passages que j'ai aimés, il y en a un qui nous dit, on a fait une expérience. Alors, je connaissais l'expérience avec le miel sur la tétine pour l'enfant qui va avoir subi une piqûre ou une vaccination, par exemple. Et je savais que le fait de lui donner du miel à sucer avait un effet antalgique, mais je ne savais pas que lui mettre sous son nez, j'allais dire, l'odeur du lait maternel, faisait qu'il avait l'impression, on avait l'impression qu'il souffrait moins de la piqûre qu'on allait lui administrer. C'est incroyable, cette espèce de rapprochement. Ça rejoint encore le centre des émotions, là.
Oui, bien sûr, le centre des émotions et la gestion de la douleur. Ce sont des recherches qui ont été faites aussi au sein d'hôpitaux, puisqu'on voit les progrès de la médecine et l'utilisation d'hypnose, par exemple, pour tout ce qui est intervention. Et là, on se rend compte qu'en fait, avec des techniques extrêmement simples, comme vous l'avez bien cité, diffuser une odeur pour réconforter un individu, notamment un bébé, on peut avoir des résultats intéressants sur la notion de douleur, la résistance aux interventions et la diminution de la douleur perçue.
Et alors, pour nos mamans téléspectatrices ou auditrices, on peut même dire que vous conseillez pendant la grossesse de multiplier les repas odorants, j'allais dire, de multiplier les repas épicés pour faire découvrir à l'enfant in utero, à la limite, déjà une palette et un peu enrichir sa palette d'odeurs.
Oui, en fait, on affûte vraiment le nez de notre enfant et du futur homme ou de la future femme à venir. Par le biais de la grossesse, parce qu'on pense beaucoup aux odeurs qu'on va proposer à l'enfant une fois qu'il sera né, mais en réalité, les 9 mois de grossesse sont assez intéressantes pour ça. On voit vraiment cette conséquence quand on compare les origines des mamans. Par exemple, personnellement, je viens de Méditerranée, donc ma mère consommait de l'ail, etc. Et des études ont montré que les individus qui ont une maman qui a consommé, par exemple, des molécules des composés odorants extrêmement riches en ail vont être plus à même à l'aimer, à le reconnaître dans le futur. Je parle d'un composé qui est assez marqué, mais après, ça va être vrai pour l'ensemble des odeurs. Donc, il y a vraiment un continuum d'odeurs entre ce qu'on a connu in utero et ce qu'on connaît au cours de notre vie.
Mais vous allez même plus loin, parce que vous dites que les odeurs se transmettent dans les chromosomes au niveau de l'épigénétique.
Alors, en fait, ça, c'est ce qu'on peut le percevoir vraiment avec les molécules dont je parle dans le livre. La cadavérine et la putrécine, par exemple, on voit bien que, en tout cas, à ma connaissance, je ne connais personne qui est attiré par l'odeur de putréfaction d'une viande avariée. Et là, on peut voir que même si on mettait cette odeur-là très tôt chez quelqu'un qui n'aurait pas encore été confronté à rencontrer un aliment avarié, un écœurement face à cette odeur qui fait qu'on est protégé et qu'on va pouvoir éviter certaines sources contaminantes.
Alors là, je vais vous provoquer un petit peu parce que vous nous dites on a pu reconstituer le parfum de Cléopâtre. Alors, est-ce que les archéologues s'occupent vraiment des odeurs? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont pu reconstituer le parfum de Cléopâtre? Et est-ce que ce sera un parfum qu'actuellement on pourrait reconnaître comme un parfum bénéfique? Est-ce que si on était un empereur romain, on serait attiré par Cléopâtre et son parfum?
Alors, les archéologues ne sont pas forcément des nés, je vous l'accorde, mais là, en l'occurrence, c'était vraiment des recherches qui ont été faites en comparant des textes où on retrouve en fait des notions d'odeur qui étaient dans le fameux parfum de Cléopâtre, ou du moins à son époque, et qui retrouve en fait ces composés-là sur le terrain. Et c'est intéressant de faire le parallèle avec cette époque qui est quand même bien derrière nous, et de voir qu'en fait on peut reconstituer un univers olfactif d'une époque passée.
Et ça donne quoi si on respire le parfum de Cléopâtre à notre époque?
Je pense que ça peut être plaisant, mais il y a un phénomène aussi de génération, de mode et de voilà. Donc j'imagine qu'aujourd'hui on est loin de se parfumer avec ce genre de senteur extrêmement forte, hein, parce que on a pu le voir à travers la mode vestimentaire qui a vraiment des générations, des époques. Mais on le voit aussi avec les parfums où on est allé sur des composés de plus en plus subtils. Maintenant on cherche vraiment la notion de propre, alors que parfois on a recherché beaucoup plus d'exubérance ou du moins des odeurs plus soutenues. Puis là encore, géographiquement, en fonction de là où on vient, on va avoir des attraits pour des parfums différents, plus ou moins portants, plus ou moins forts, plus ou moins épurés.
Et alors vos recherches rejoignent l'aromathérapie, puisque vous dites, avant même de la prendre, l'huile essentielle de plante, elle peut avoir un effet thérapeutique en la respirant.
Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on parle d'huile essentielle, il y a plusieurs façons de les consommer. Donc, parfois, en les consommant directement sur la langue, mais c'est plutôt rare. Ça va plutôt être en diffusion ou pour sentir ou à appliquer quelque part sur une partie de son corps. Et là, on se rend compte que sans forcément ingérer quelque chose, ça peut avoir un pouvoir énorme juste par le biais de l'olfaction ou des composés qui vont être diffusés. On voit par exemple de plus en plus de personnes qui ont du mal à s'endormir. Le simple fait de poser sur son oreiller un petit peu d'huile essentielle de lavande vraie, par exemple, pourra vraiment trouver ce sentiment de réconfort chez la personne et l'aider à trouver un sommeil durable.
Eh bien, écoutez, bravo. Je crois que vous n'avez pas une petite recette pour nos auditeurs, là.
Une recette santé?
De parfum qu'on pourrait. Parfum attirant, par exemple, ou un parfum qui soit presque un filtre. Allez, vous n'avez pas une petite recette?
Alors, en termes de parfumerie, là, c'est vrai qu'on approche les beaux jours. Moi, j'adore les parfums qui évoquent vraiment la mer, la fraîcheur. C'est vrai. Ce sont des odeurs qui... Comment ?
Une brise marine, alors. Un parfum brise
marine. Une brise marine, voilà. Ça, c'est personnel et ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Donc, un conseil, ce serait peut-être de fermer les yeux et d'essayer de se projeter en enfance et d'aller vers une odeur qui attire un souvenir d'enfance. Donc, moi, je pense à la mer, mais j'imagine que chaque personne aura son petit souvenir d'enfance qui est lié à l'été et en profiter pour profiter des beaux jours pour diffuser ces odeurs-là.
Et en sachant qu'en retrouvant une odeur de l'enfance, on risque de retrouver les émotions de l'enfance et tout le bienfait qu'on peut en tirer à ce moment-là.
Exactement. Une simple odeur peut parfois nous permettre de nous réconforter. On le voit beaucoup avec la crème solaire, hein. Parfois même avant d'arriver à la mer. Si en faisant nos valises, on ouvre le tube, on se rend compte qu'on va déjà mieux, on est déjà reposé en partie avec l'odeur de crème solaire.
Alors, malheureusement, on se rend compte aussi, et vous le dites dans votre livre, que la madeleine de Proust a existé, certes, mais maintenant, on met des odeurs de croissanterie, des odeurs de viennoiserie un peu partout pour donner envie d'acheter dans un but commercial.
Oui, le marketing olfactif est de plus en plus présent, c'est vrai. Alors, heureusement pour les marques et malheureusement peut-être pour l'individu qui est parfois biaisé par ses émotions. Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'on est saturé d'odeurs commerciales, vraiment à tout niveau. En fait, parfois même sans avoir faim, on peut juste sentir une odeur en arrivant au marché qui va nous donner envie de consommer ou c'est ce qui rend le marché plaisant aussi. Cette même odeur-là, à 14 heures après le déjeuner, sera perçue de façon beaucoup moins attractive pour le sujet qui, là, n'aura plus les mêmes attentes.
En tout cas, Clémence Lutti-Molinier, vous nous dites qu'il faut s'occuper plus de son nez, mieux le soigner et à la limite, mieux l'éduquer presque.
Oui, en fait, c'est un travail de tous les jours. On n'a jamais terminé de travailler son odorat puisqu'en fait, il y a une neurogénèse permanente. Concrètement, c'est que les neurones au niveau du bulbe olfactif se régénèrent de façon continue. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on peut s'exercer tous les jours. Y compris pour les personnes qui auraient déjà des troubles, puisqu'en fait, on a toujours cette possibilité-là de faire grandir cette bibliothèque d'odeurs qu'on a dans notre cerveau.
Et vous terminez par un encouragement en disant, contrairement à toutes les autres facultés, pratiquement, la vieillesse fait augmenter l'odorat plutôt que l'inverse.
Alors, à partir de 60 ans, on voit une baisse d'odorat pour certains composés, mais là encore, ça va vraiment dépendre de beaucoup de critères. C'est difficile d'établir vraiment un corrélat exact, mais on peut comparer des personnes qui vont être très très intéressées par les odeurs et qui vont vraiment pratiquer, en comparaison avec des personnes qui ne vont pas pratiquer et même à des âges avancés. On voit vraiment l'impact de l'apprentissage olfactif tout au long de la vie.
Eh bien, merci Clémence Lichty-Molinier. Nous ne serons pas tous des nez, mais nous aurons peut-être du nez à vous écouter et à vous lire. Rappelons que votre livre, c'est « L'extraordinaire pouvoir de l'odorat » qui a paru aux éditions de Buck. Merci beaucoup Clémence.
Merci Monsieur Labesca.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, j'ai coupé. C'est bon.
Bon, merci beaucoup.
Ben, ça a été ?
Oui, oui, oui. Après, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de procéder. Vous envoyez une vidéo d'avance pour oui. La personne qui...
Non, absolument, oui, je vais vous l'envoyer. Oui, oui, je vous l'envoie et je vais envoyer à votre attaché de presse aussi.
D'accord, très bien.
Voilà.
Est-ce que ça vous convient en termes de réponse ?
Pardon ?
Vous avez été... c'était bon pour vous, les réponses ?
Oui, oui, ça a été. Finalement, ça s'est bien passé. Oui, merci.
Bon, merci. Très bien.
Allez, bon
merci plaisir. À vous. Au revoir.
On ne pouvait pas terminer ce journal de la santé et du bien-être de rentrée sans faire une petite piqûre de rappel sur les vacances. Alors, on vous a dit rencontrer les dauphins, vous en avez peut-être rencontré pendant vos vacances dans les delphinariums, mais si on les rencontrait en liberté, si on les rencontrait dans le milieu naturel et si on leur demandait de nous inviter à participer à leurs jeux, participer à leurs actions.
Bonjour Jean-Christophe Kane.
Bonjour, bonjour Jacques.
Alors, Jean-Christophe Kane, il a eu plusieurs vies, alors on ne va pas l'interroger sur toutes ses vies, autrement on passerait l'interview dessus. Mais parmi ses vies antérieures, j'allais dire, quoique bien réelles, il a été directeur d'une ferme aquacole, il a fait de la pêche sportive, il a fait de la pêche professionnelle, et puis il a eu envie de faire découvrir les cétacés autrement que dans les delphinariums, parce que c'est vrai que les delphinariums, c'était peut-être un moyen de découvrir les dauphins, mais est-ce que c'est pas mieux de les découvrir en réalité? Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est le cas, Jean-Christophe?
Eh ben oui, exactement. Vous ne vous trompez pas. C'est exactement ça. Dans mes pratiques professionnelles, j'ai été souvent au contact de ces animaux, des cétacés, des petits, des grands cétacés. Pour la petite anecdote. C'est un rorqual commun un jour qui m'a fait prendre cette décision puisque j'étais en pêcheur en pleine mer et en plein fonctionnement, enfin en plein travail, un grand rorqual est venu à 5-6 reprises respirer à 2-3 mètres du navire, hein, donc c'était voilà, il était bien plus gros que le navire. Écoute, à bord, je n'avais pas grand-chose, un masque, un maillot. J'ai décidé de sauter à l'eau. Et on a fait un tête-à-tête d'une heure à peu près. Il était tellement proche de moi qu'il était obligé de tourner le museau pour me regarder, pour qu'on puisse se voir dans les yeux. Et au bout d'une heure, mon équipage s'impatientait un petit peu. Hein, on n'arrête pas un navire de pêche comme ça pour rien en pleine mer pendant une heure. Quand je suis remonté, j'ai décidé de changer de métier et de faire découvrir toutes ces merveilles de la Méditerranée au monde, en tout cas à tous nos participants.
Alors c'était un message subliminal, en quelque sorte.
Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai pris conscience qu'on avait une richesse en mer, on avait une richesse au large. On a trois espèces de grands cétacés, on a quatre espèces de petits cétacés, Et on a des tortues, des rémobulas, hein, qui sont l'équivalent de la rémanta en Méditerranée. On a une faune extraordinaire au large devant chez nous et qui est extrêmement méconnue. J'ai pris conscience que voilà, je pouvais avoir ce rôle de montrer et de faire partager toutes ces belles richesses au monde, quoi.
Oui, parce que si on part d'Antibes, donc on part du port d'Antibes, hein, dans le sud-est de la France, mais on va à la rencontre, on rencontre des animaux, mais dans leur milieu naturel, bien évidemment, on ne s'est pas programmé.
Et exactement, tout à fait. Chaque jour est une petite aventure. Hein, on sait jamais sur quelle espèce on tombera, bien qu'il y ait des grandes saisons qui nous dictent un petit peu les allers et retours de chacun. Mais c'est vrai, on part à l'aventure et voilà, et on va rencontrer telle espèce aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je dis au briefing le matin. Ne me demandez pas ce qu'on verra, je le sais pas encore.
Voilà, et puis alors on s'équipe d'un palme, masque, tuba et combinaison, et puis éventuellement on va les rencontrer ou pas, ou s'ils veulent ou s'ils veulent pas.
Exactement, tout à fait. L'approche se veut éthique. De toute façon, elle est nécessairement éthique. On est face à des animaux sauvages, on est les hôtes de la mer. On va à la rencontre des animaux. On a tout plein de procédures pour leur donner un petit peu l'envie ou la curiosité de venir à nous. Voilà, l'idée, c'est de, par exemple, de naviguer en parallèle de leur trajectoire à une centaine de mètres. Et puis, voilà, sur le groupe de dauphins, admettons, ce sont des dauphins bleu-blanc, les sténelles. Quelques individus vont se détacher du groupe parce qu'ils entendent qu'il y a de l'activité pas très loin. Et donc, voilà, ceux qui étaient en phase de sociabilisation vont venir vers le navire, nager à l'avant du navire, se jouer autour du navire. Et accessoirement, voilà, quand quelques animaux non aquatiques que nous sommes vont se mettre dans l'eau, ça attise leur curiosité et puis voilà, ils vont venir voir. Donc, évidemment, il n'est absolument pas question de show, hein. Comme il pourrait l'être dans les bassins. Il est simplement l'idée de rencontrer une autre espèce que marine qui va s'intéresser à nous, voilà, tout bêtement. C'est l'occasion de vivre un rêve de rencontrer des dauphins dans l'eau, dauphins sauvages évidemment. Et l'animal vient, entre guillemets, se rince les yeux, on devient un peu son spectacle, et puis repart. Voilà. Donc les interactions peuvent être longues, courtes. C'est l'animal qui va décider du niveau d'interaction, de la distance d'approche, nous on sera là pour accueillir ce que la nature nous donne, quoi.
Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'avant de les voir, pratiquement on les entend, les animaux marins. Et c'est pas le monde du silence.
Et tout à fait, exactement. Hein, avec les dauphins autour de nous, dans l'eau, on entend toutes sortes de cliquetis qui émanent de leur sonar. On entend leur chant, hein, parce que ils passent leur temps à chanter sous l'eau. Chaque espèce de dauphin a son propre chant. Je pense notamment au globicéphale qui quand ils sont dans l'eau, alors ça porte évidemment, l'eau porte le son assez loin, donc on peut très bien, voilà, à 500 mètres d'un groupe de globicéphales, entendre une symphonie dans l'eau et mélanger de cliquetis, c'est quelque chose de grandiose.
Et pareil, à titre didactique, Jean-Christophe nous fait écouter aussi les cachalots.
Oui, tout à fait, exactement. On a eu cette chance de régulièrement de pouvoir s'arrêter, mettre un micro dans l'eau et entendre, voilà, entendre toute la vie sous l'eau, et notamment le cachalot, hein, qui lui a un sonar tellement gros que son son va porter à 3-4 000 nautiques autour de lui.
Voilà, je crois que c'est une belle expérience qu'on peut souhaiter à tous nos auditeurs, hein, de partir d'Antibes, quitter le port d'Antibes, avoir une belle vue déjà sur la côte, hein, et puis aller à la rencontre, alors avec les aléas des rencontres, mais aussi le plaisir de faire des rencontres aléatoires, c'est ça l'intérêt.
Tout à fait. On propose des sorties, diverses sorties, hein, des sorties pour aller à la rencontre dans l'eau, nager à proximité des animaux. On propose des sorties d'observation directement sur le navire. On propose des sorties éthologiques, puisque régulièrement, mais c'est vrai que depuis 2 ans, les confinements ne nous ont pas trop aidés, mais habituellement, en fin de saison, tout l'hiver, on sort avec le Philippe Mort, qui est un éthologue, docteur des universités voilà, qui connaît bien sa partie et qui vient animer nos sorties chaque hiver quand on nous permet de sortir en mer. Et dernièrement, ça fait déjà quelques années, mais c'est vrai qu'on tend vers ça, à augmenter ce type de sortie. On travaille sur des sorties de développement personnel parce qu'on s'est évidemment rendu compte que le contact avec les animaux, il est bien plus fort quand on a fait un petit travail sur soi, quand on a laissé ses problématiques à terre, hein, ses problématiques personnelles, quand on est un petit peu plus dans l'alignement avec la nature, et ben les animaux nous le rendent. Donc c'est encore un grand sujet. Faudrait qu'on en discute encore des heures, mais évidemment notre expérience a montré que ce type de sortie a un succès énorme envers les animaux, qui nous le rendent évidemment énormément, hein. Je pense notamment à des expériences où le cachalot nage en parallèle de notre trajectoire et vient se dérouter totalement pour s'arrêter face aux nageurs, curieux de voir d'autres animaux qui seraient peut-être aussi, autant que lui dans la cohérence cardiaque, etc., etc. Donc c'est encore un grand sujet, mais j'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler.
C'est une idée quantique, un échange d'ondes.
Tout à fait.
Alors voilà, écoutez, si vous voulez profiter de cette belle aventure, parce que c'est une belle aventure au sens profond du terme, vous partez d'Antibes. Alors comment fait-on ? On contacte Jean-Christophe, alors il va donner son site internet.
Tout à fait, notre site www.exocet-mer.com. Alors, je suis rarement joignable la journée parce qu'évidemment, au large, en dehors des réseaux téléphoniques, mais tout le site est assez automatisé et on peut faire directement ses réservations dessus. Ou alors, je suis joignable le soir après 17h quand on rentre de mer, quoi.
Voilà, les dauphins ne transmettent pas les messages.
Non.
Merci beaucoup.
Ils sont pas sous le réseau.
Merci beaucoup, Jean-Christophe. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.
Au revoir.
Ce journal de la santé et du bien-être de rentrée se termine. J'espère qu'il vous a au moins plu, intéressé. C'était un journal un petit peu atypique, un journal de rentrée, eh oui, c'est ça. Avec des piqûres de rappel sur les vacances et puis une préparation déjà de la rentrée. Alors des bonnes résolutions, on vous l'a dit. Prenez-les, mais tenez-les surtout. Et puis, parmi les résolutions, écoutez régulièrement le troisième mercredi du mois, le journal de la santé et du bien-être naturel, docteur Jacques Labesca et Francky à la technique. Et puis, si vous voulez nous suivre, si vous voulez nous poser des questions, vous savez que nous sommes sur le site de l'émission Radio IDFM et aussi sur mon site personnel soignéparlesplantes.fr. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.